Merci beaucoup Pierre-Michel de cette introduction. Bonjour mesdames et messieurs. Donc je vais traiter du thème méritocratie et mobilité sociale, un aperçu de la recherche empirique en sociologie. Et je vais commencer par un peu de méthodologie. Lorsque les sociologues s'intéressent à la mobilité sociale entre générations et à son évolution, eh bien usuellement, ils travaillent sur des tableaux d'enquête qui croisent la position sociale d'individus adultes avec celle d'un de leurs ascendants, usuellement leur père, au cours de leur jeunesse. Et à partir de ces tableaux, les sociologues distinguent entre, d'une part, le point de vue de la mobilité observée, ce qu'on appelle aussi les taux absolus de mobilité, et le point de vue de la fluidité sociale, ce qu'on appelle aussi les taux relatifs de mobilité. Et c'est le second point de vue qui renseigne sur l'inégalité des chances sociales. De même, pour étudier le lien entre origine sociale et niveau d'éducation atteint, les sociologues s'intéressent à des tableaux d'enquête croisant le diplôme le plus élevé obtenu par des individus adultes avec la position sociale d'un ascendant, usuellement le père, et de même, il distingue entre le point de vue de ce qu'on peut appeler, je mettrai des guillemets volontiers, la massification, donc les taux absolus, et le point de vue de la démocratisation stricto sensu, hein, les taux relatifs. Donc c'est le second point de vue qui renseigne sur l'inégalité des chances scolaires. Et voilà, pour rendre plus concret mon propos, une société fictive où n'existent que deux positions sociales, celle de cadre et celle d'ouvrier, et dans laquelle on a étudié la mobilité sociale entre générations à deux dates, T1 et T2. Vous voyez qu'à chaque date, on a interrogé 1000 individus. À chaque date, il y a 200 fils de cadre et 800 fils d'ouvrier. Mais vous voyez en revanche que de T1 à T2, la société s'est en quelque sorte tertiarisée, puisqu'on est passé de 25% de cadres, hein, 250 cadres, 750 ouvriers en T1, à 35% de cadres en T2. Et à partir de ces données fictives, eh bien, je dis que dans cette société, la mobilité observée a augmenté. Notamment, on voit que la proportion totale d'individus mobiles, les individus hors diagonale, a augmenté. Elle est passée donc de 20% en T1 à 25% en T2. De même, la proportion de fils d'ouvriers qui sont cadres, eh bien, a augmenté. Elle était 16% en T1, elle passe à 25% en T2. Donc, ma société fictive est caractérisée par une augmentation de la mobilité observée. En revanche, j'ajoute que dans cette société fictive, la fluidité sociale ou l'inégalité des chances sociales sont demeurées strictement inchangées, car en T2 comme en T1, les chances d'être cadre plutôt qu'ouvrier sont toujours 9 fois plus fortes pour les fils de cadre que pour les fils d'ouvriers. Vous voyez la quantité qui est calculée tout en bas de ma diapositive, effectivement, c'est le rapport de deux rapports, c'est une statistique connue sous le nom de Odds Ratio, inventée ou découverte par George Udny Yule en 1900 et qui dispose de propriétés statistiques importantes. Donc voilà, société fictive, croissance de la mobilité observée, mais constance de la fluidité sociale. Je reprends exactement les mêmes données en disant que dans ma société fictive, il y a un système scolaire très simple avec un seul examen, le baccalauréat, et tout se joue donc dans le fait d'être bachelier ou non bachelier. Et j'imagine maintenant que mes données décrivent effectivement deux cohortes, et vous voyez que de la cohorte C1 à la cohorte C2, eh bien, la proportion donc, de bacheliers a augmenté. On est passé de 25% à 35%, et sur ces données, eh bien, on dirait donc qu'il y a eu massification de l'école, car la proportion de bacheliers a augmenté parmi les enfants de cadre comme parmi les enfants d'ouvriers, mais il n'y a pas eu démocratisation de l'enseignement, ou encore l'inégalité des chances scolaires est demeurée strictement inchangée, car dans les deux cohortes, les chances d'être bachelier plutôt que non bachelier sont toujours 9 fois plus fortes pour les enfants de cadre que pour les enfants d'ouvriers. Alors, bien sûr, dans les sociétés réelles, On distingue plus de deux positions sociales et les systèmes scolaires sont aussi plus complexes. Donc les tableaux sont plus vastes. Mais la constance de l'inégalité des chances sociales ou scolaires est toujours représentée par l'égalité des odds ratios homologues au cours du temps ou au fil des cohortes. Et depuis environ 50 ans, à partir de données observées, on sait estimer statistiquement les tableaux qui auraient dû être obtenus dans le cas d'une stricte constance de l'inégalité des chances sociales ou scolaires. Et donc, on peut comparer la réalité observée dans des enquêtes à cette situation que l'on estime, toujours à partir des données d'enquête, donc à cette situation estimée de constance stricte. Et de même, depuis plus récemment, mais tout de même 30 ans, on sait estimer statistiquement une situation de transformation de la force générale de l'association entre origine et position sociale, ou entre origine sociale et niveau d'éducation obtenu. Pour finir très rapidement avec ma société fictive, voilà un exemple fictif d'augmentation de la fluidité sociale. Les tableaux sont très simples et on peut dire ceci. Si dans cette société la fluidité sociale avait été rigoureusement constante, alors à chaque date, ce sont 850 des 1000 fils de cadres qui devraient eux-mêmes être cadres et 850 des 1000 fils d'ouvriers qui devraient eux-mêmes être ouvriers. Et le odds ratio vaudrait environ 32. En réalité, la fluidité sociale a augmenté, car ce même odds ratio valait 81 en T1, il a été réduit à 16 en T2, et on dira que la fluidité sociale a augmenté de 37%, car log de 16 sur log de 81 égale 0,63. Il faut passer par les logs pour des raisons techniques que je n'explique pas maintenant. Mais mon point, et c'est un point important, en fait, c'est une mesure. Donc, vous voyez, mon tableau a un petit peu bougé, mais pas beaucoup. Et je dis, la fluidité sociale a augmenté de 37% au sens du logarithme du odds ratio. Donc, c'est une mesure très sensible de l'évolution intervenue. En effet, une variation de 37% dans le logarithme des odds ratio ne correspond en réalité qu'un déplacement de 10% des individus à l'intérieur du tableau de mobilité observé en T1 pour que celui-ci devienne identique à celui observé en T2. Donc vous avez là une clé pour ne pas surinterpréter les variations de valeurs que je vais présenter dans la suite. En fait. Alors, dans les années 1980 et 1990, la recherche sociologique internationale sur ces questions est dominée par la thèse de la constance de la fluidité sociale et de l'inégalité des chances scolaires. Plus précisément, on est impressionné par le degré auquel le modèle statistique de constance s'avère proche des données réellement observées. Et ceci est tout à fait visible, en fait, dans le titre de deux ouvrages qui ont marqué, en fait, ce champ de recherche, donc des ouvrages fondés sur des comparaisons internationales. Robert Erickson et John Goldfort, 1992, The Constant Flux, A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Et l'ouvrage édité par Yossi Shavit et Hans-Peter Blossfeldt, Persistent Inequality, Changing Educational Attainment in 13 Countries. Dans cet ouvrage, on conclut à un déclin de l'inégalité des chances scolaires depuis le début du XXe siècle dans seulement deux pays sur 13 étudiés, les Pays-Bas et la Suède. Mais depuis la fin des années 90, en fait, on a commencé à remettre en cause cette conclusion de stricte constance. Et vous voyez ici, en fait, à partir de données françaises, les enquêtes formation-qualification professionnelle entre 1977 et 2015, vous voyez en fait l'ensemble des odds ratios calculés à partir des quatre grands groupes socioprofessionnels de salariés. Et je prends juste la cellule ou la case tout en haut à droite, donc où figurent les odds ratios qui donnent l'avantage relatif d'être cadre ou profession intellectuelle supérieure plutôt qu'ouvrier pour les enfants, fils ou filles de cadres par rapport aux enfants d'ouvriers. Et vous voyez qu'en 1977, en fait, les chances d'être cadre plutôt qu'ouvrier étaient à peu près 92 fois plus forte pour les fils de cadre que pour les fils d'ouvriers. C'est, il y a de la fluctuation d'échantillonnage, c'est 111 dans l'enquête de 1985. Et ensuite, en fait, vous voyez que si je prends 2015, on atteint 23. On observe une décroissance également pour les femmes, mais si vous regardez maintenant l'ensemble des cellules, en fait, on observe une tendance générale à ce que ces odds ratios se réduisent. Autrement dit, le diagnostic est que la fluidité sociale entre générations s'est accrue en France au sens où l'inégalité des chances sociales a un peu diminué. Et alors, évidemment, s'il y a accroissement de la fluidité sociale, on peut se demander quelle est la circulation sociale supplémentaire produite donc par cet accroissement de la fluidité sociale. Alors, vous avez ici une diapositive, je vais commenter assez vite, mais en disant que ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est en fait de mesurer les conséquences de cet accroissement en fait comme un jeu à somme nulle. En fait, vous voyez que donc il s'agit donc d'une évaluation des effets de l'accroissement de la fluidité sociale entre 1977 et 2003. En fait, la réallocation des individus à l'intérieur du tableau de mobilité porte sur un peu moins de 5% des individus. Donc vous voyez que c'est une proportion faible. Et l'accroissement de la fluidité sociale, c'est à la fois un peu plus d'enfants d'ouvriers qui deviennent cadres, mais c'est aussi dans l'autre sens, effectivement, tel qu'on le mesure, puisqu'on travaille à marge donnée, effectivement, un peu plus donc de mouvement, de mobilité descendante. Alors, la France n'est pas le seul pays concerné par cette évolution tendancielle. Dans l'ouvrage collectif édité par Richard Brin Redlux en 2004, « Social Mobility in Europe », ils écrivent ceci dans la conclusion. « The results from our 11 countries then point to a fairly clear conclusion. There is a widespread tendency for social fluidity to increase, even though this might not be a statistically significant trend in every case. » Plus récemment, dans l'ouvrage édité par Richard Brin et Walter Müller en 2020, qui inclut aussi donc un travail sur les États-Unis, on a le même diagnostic. They reveal a general tendency for the association between people's class origins and their class destinations to weaken, most often in the middle class among people born roughly between 1925 and 1955. D'où la question centrale à laquelle on arrive. Eh bien, ce relâchement tendanciel de la force du lien entre origine et position sociale doit-il être interprété comme le signe que la société est devenue davantage méritocratique? Alors, à ce stade de l'exposé, il est important peut-être de revenir très rapidement sur les thèses à bien des égards optimistes qui avaient été formulées par la sociologie américaine des années 60 et 70 à propos de l'évolution générale des sociétés modernes. Et Blau et Duncan écrivaient en 1967, c'est ma traduction, « Une tendance fondamentale vers un universalisme croissant caractérise la société industrielle. Blau et Duncan s'attendent à ce que, traduction également, le statut acquis d'un homme, c'est-à-dire ce qu'il a accompli du point de vue de quelques critères objectifs deviennent plus importants que son statut hérité, c'est-à-dire ce qu'il est au sens de la famille dont il est originaire. Donald Treman, également en 1970, écrivait « Le niveau de transfert direct de statut des parents aux enfants irait en diminuant avec le processus d'industrialisation d'une société. » Enfin, Daniel Bell, la société post-industrielle, dans sa logique initiale, est une méritocratie. Alors, dans les sociétés modernes, l'éducation obtenue est l'élément central à partir duquel sont alloués les statuts sociaux, de même qu'un indicateur important, sans doute imparfait, mais important tout de même, du mérite individuel. Et donc, si ces thèses sont justes, et pour que l'accroissement de la fluidité sociale puisse être interprété comme l'avènement d'une société plus méritocratique, eh bien, on devrait observer qu'au fil du temps ou des cohortes de naissance, et dans le triangle origine sociale, éducation, position sociale, on devrait observer des transformations tendancielles, des relations statistiques. On devrait observer donc un affaiblissement, la relation statistique origine sociale, éducation. En revanche, une croissance de la relation statistique éducation, position sociale. Et enfin, une décroissance de la relation statistique directe, origine sociale, position sociale, directe, c'est-à-dire à niveau d'éducation contrôlé. Et mon propos maintenant, c'est de passer en revue très rapidement l'évolution de ces trois relations. Alors, je commence par l'évolution du lien origine sociale, éducation. Vous avez ici donc présenté les paramètres log multiplicatifs, donc qui indique la transformation de la force générale de l'association statistique origine sociale éducation dans un certain nombre de générations entre la première 1906-1924 et la dernière 1965-1973. C'est mon chapitre dans l'ouvrage Brin et Müller, mais qui a été publié aussi en français dans la revue de l'OFCE en 2017. Donc voilà, vous voyez la variation. Donc on peut dire ceci, en France, on met en évidence un affaiblissement irrégulier de la force du lien entre origine sociale et diplôme le plus élevé obtenu. Cet affaiblissement a été davantage prononcé parmi les femmes que parmi les hommes. Il a été surtout concentré sur les cohortes nées autour de la décennie 1940, cohortes donc qui précèdent les grandes réformes qui voulaient démocratiser l'enseignement. Et après, en fait, ces cohortes, eh bien, on a une espèce de quasi-plateau. Et enfin, on a pu mettre en évidence que ce mouvement avait été en fait principalement porté par l'amélioration des destins scolaires des enfants d'agriculteurs exploitants et d'ouvriers agricoles. Cependant, et au-delà du seul niveau de diplôme, la prise en compte du versant qualitatif des inégalités via, par exemple, la filière de formation suivie est susceptible d'infléchir la conclusion. En particulier, entre les décennies 60 et 2000, il y a eu réduction des écarts sociaux dans l'obtention du baccalauréat, quel qu'il soit, mais ce mouvement disparaît si l'on prend en compte le type de baccalauréat obtenu, général, technologique ou professionnel. C'est ce que j'avais montré dans un papier écrit avec Mathieu Hichoux et publié dans la Oxford Review of Education en 2011. Ou encore, la réduction des écarts sociaux est de plus en plus faible à mesure que l'on considère un baccalauréat plus prestigieux. Voilà l'exemple précisément, c'est tiré du même travail. Vous voyez que colonne de gauche, c'est le panel d'élèves entrés en 6e en 1962. Colonne de droite, le panel d'élèves entrés en 6e en 1995. Première ligne, obtenir un baccalauréat, quel qu'il soit, le odds ratio entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers diminue de 9 dans le premier panel à 5,2 dans le second. La diminution est significative. Si on regarde obtenir un baccalauréat général plutôt que non, on a également une diminution un peu plus faible, de 11,1 à 8,9, mais elle est significative. Si on regarde maintenant obtenir un baccalauréat général de type scientifique et encore plus obtenir un baccalauréat général de type scientifique maths physique, eh bien vous voyez que la réduction du odds ratio devient extrêmement ténue et en fait elle n'est plus statistiquement significative. Il n'y a plus, je peux utiliser mon pointeur, il n'y a plus d'étoiles ici dans le rapport des deux odds ratios. Donc vous voyez. Enfin, j'ai voulu prendre cette diapositive parce que je trouve que c'est un bon exemple de la façon dont on peut voir comment en fait une conclusion sociologique s'infléchit lorsque on change la focale. On est passé d'un baccalauréat quel qu'il soit à le baccalauréat général scientifique maths physique. Alors tout de même, le dernier travail de grande ampleur sur ces questions, c'est l'article publié par Julie Falcon et Pierre Bataille dans European Sociological Review 2018. En fait, ils utilisent toutes les enquêtes emploi annuelles entre 1982 et 2014 pour étudier la variation de l'inégalité des chances scolaires dans 11 cohortes de naissance entre 1918 et 1984, en détaillant finement les diplômes de l'enseignement supérieur. Et c'est une phrase tirée du résumé. We demonstrate that social background inequality in terms of access to higher education has diminished across cohorts, even within the highest and most selective educational levels, such as the grandes écoles. Donc la conclusion d'un affaiblissement du lien entre origine sociale et éducation vaut y compris pour la diplomation donc des grandes écoles. Voilà la reproduction, je n'ai pas le temps de commenter en détail, mais vous voyez que l'on considère l'ensemble des niveaux de diplôme ou différents niveaux dans l'enseignement supérieur, vous observez donc toujours ces courbes déclinantes. Je passe maintenant à l'évolution du lien éducation-position sociale et je présente toujours donc mes paramètres log multiplicatifs au fil de mes cohortes. C'est dans le même travail. C'est fixé à 1 dans la première cohorte et c'est estimé donc pour les autres. Et donc vous voyez que à partir de ces valeurs, on peut conclure ceci. Donc on observe un affaiblissement de la force générale du lien entre niveau d'éducation atteint et position sociale occupée. Cet affaiblissement est en fait davantage prononcé parmi les femmes que parmi les hommes, et en fait, il débute plus tôt chez les femmes, la cohorte 1925-1934, que chez les hommes, la cohorte 1935-1944. Et peut-être pour donner un peu de chair en fait à ce résultat un peu sec, on peut dire ceci, en termes absolus, la variation au fil des cohortes des destinées sociales selon le diplôme le plus élevé obtenu a été beaucoup moins prononcée pour les niveaux d'éducation extrême, tout en bas au plus le certificat d'études primaires et en haut au moins 3 ans après le baccalauréat, que pour les niveaux intermédiaires. Pour ces niveaux intermédiaires et les cohortes récentes, alors les chances d'accéder aux catégories de cadres supérieurs et moyens ont fortement décru et l'entrée dans la classe ouvrière a nettement augmenté. Une variation analogue apparaît aussi en termes de période, c'est-à-dire lorsque on fait le même type d'analyse, non plus au fil des cohortes, mais au fil des enquêtes. Ce que je fais ici, donc au fil des enquêtes FQP 1970, 77, 85, 93, et c'est fait ici en plus en contrôlant de l'effet de l'origine sociale sur la position sociale atteinte. Vous voyez une décroissance également des paramètres, hein, et donc on mesure en fait un déclin tendanciel dans l'avantage relatif que procure l'éducation dans l'accès aux positions sociales. Et peut-être, là encore, pour donner un peu de chair à ce résultat, donc ça c'est une contribution avec Milan Bouchevala et Camille Peugny, publié dans un troisième ouvrage de comparaison internationale à partir de l'enquête formation qualification professionnelle de 2003 pour les cohortes de naissance successives. On fait le rapport entre deux choses. D'une part, la proportion de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et d'autre part, la proportion d'individus qui se sont insérés dans la vie active, donc dans la service class, donc dans des positions de cadre supérieur ou moyen. Et vous voyez que, voilà, cohorte 1938-1944, eh bien, le rapport de la première quantité à la seconde, c'est 0,6, mais ce rapport augmente, il vaut 1 dans la cohorte 1957-1962. Et vous voyez ensuite qu'effectivement, donc parce que le système scolaire s'est beaucoup transformé, c'est beaucoup plus transformé que la structure des emplois, eh bien vous voyez que le rapport de la proportion de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à la proportion de jeunes qui s'insèrent dans la catégorie de cadre supérieur ou moyen, eh bien ce rapport est devenu supérieur à 1,4. Et voilà. Troisième lien, maintenant le lien direct origine sociale, position sociale, donc à niveau d'éducation contrôlée. Alors dans un dans un article qui était un article pionnier d'Éric Morin avec Dominique Gou, publié dans European Sociological Review en 1997. Dominique et Éric écrivaient « There is no evidence of a decline of the EUD, origin destination, net association ». Moi-même, en 2004, j'écrivais « Mais des trois relations, origine-éducation, éducation-position, net de l'effet de l'origine sociale, et origine-position, net de l'effet de l'éducation, c'est certainement le lien direct ou à éducation contrôlée entre origine et position sociale qui apparaît le plus stable. » Alors, dans le travail avec Milan Bouchevala et Camille Peugny, on a regardé ça de nouveau et on conclut que, à un âge plus avancé, en fait, dans la carrière professionnelle, eh bien, on conclut que l'ascription, l'effet du background, l'effet de l'origine sociale, n'a pas significativement diminué en France au cours des décennies récentes, même lorsqu'on fait l'hypothèse que les rendements de l'éducation, en fait, sont restés constants. Et lorsqu'on relaxe cette dernière hypothèse, en fait, autrement dit, lorsqu'on prend en compte le fait que, précisément, comme je l'ai montré précédemment, les rendements de l'éducation ne sont pas restés constants, en fait, on observe plutôt donc un accroissement, effectivement, de l'effet de l'origine sociale, donc sur la position professionnelle atteinte, à la fois dans le premier emploi et dans l'emploi au moment de l'enquête, pour la cohorte la plus récente qu'on étudiait, 1969-75, et pour l'enquête la plus récente. Et on écrivait « The second educational expansion that took place in France does not appear to have achieved its goals in terms of reducing ascription effects on the labor market ». Alors, tout de même, un dernier travail que j'ai effectué avec Céline Goffet et qui est publié dans un ouvrage essentiel CEREC, qui compare en fait les enquêtes génération de 1992 et 2010, en fait, on voyait ceci. Pour les jeunes qui ont quitté le système scolaire en 1992 et ceux qui ont fait de même en 2010, la qualité de l'emploi qu'ils occupent 5 ans après, donc évaluée par le statut socio-économique, la profession et le salaire perçu, dépend en premier lieu du diplôme qu'ils détiennent. Au-delà de cela, on observe encore, à diplôme égal, des écarts modérés mais systématiques liés à la catégorie socio-professionnelle des parents comme au niveau d'études des parents. Toutefois, ces écarts sont plus faibles pour la génération 2010 que pour la génération 1992. Et on écrivait donc « Le poids propre du milieu familial paraît donc s'être atténué en 2 décennies ». Donc vous voyez, sur des données qui sont en fait des données plus récentes et qui sont les données des enquêtes génération, en fait on a un signal différent de ce que je présentais donc dans la diapositive précédente. Alors, j'ai parlé des trois liens. C'est en fait un petit peu plus compliqué que ça. Il faut que j'évoque ce qu'on appelle en fait l'interaction entre éducation, origine sociale et position sociale. Et en fait, c'est ceci. Le lien direct entre origine et position sociale, en fait, varie selon le niveau d'éducation obtenu. Il est tendanciellement plus faible à mesure que l'on considère un niveau d'éducation plus élevé. Et vous le voyez dans la variation des paramètres au fur et à mesure qu'on considère des diplômes plus élevés, pour les hommes ou pour les femmes. Autrement dit, on peut dire ceci. Au niveau d'éducation plus élevé, la position sociale atteinte est donc moins affectée par l'origine sociale. En d'autres termes, l'allocation du statut est plus méritocratique, entre guillemets. Et puisque l'expansion de l'enseignement au fil des cohortes renforce l'importance relative, l'importance numérique des diplômes plus élevés, ça crée un effet de composition qui contribue à l'augmentation de la fluidité sociale entre générations. Ce même fait stylisé, il apparaît aussi dans une analyse au fil des enquêtes. Enquête formation qualification professionnelle de 70 à 93. Cependant, la pente de la droite déclinante, qui résume l'affaiblissement du lien entre origine et position sociale à mesure que l'on considère des diplômes plus élevés, diminue au fil des enquêtes. Vous voyez que la pente, c'est pour les hommes, c'est moins 0,068 en 70, mais ce n'est plus que moins 0,033 en 93. Vous avez une variation aussi pour les femmes. Et donc, j'écrivais ceci, en fait, donc, à mesure que qu'il y a une expansion de l'éducation et que donc les catégories donc de diplômes plus élevés donc croissent en importance, eh bien la capacité d'une éducation plus élevée à affaiblir l'effet ascriptif en fait diminue. Et on pourrait interpréter probablement, on peut probablement interpréter ce résultat donc dans le cadre de la théorie du signal. Par exemple, comme l'éducation de niveau supérieur donc, est moins rare en 1993 qu'en 1970, eh bien, ça pourrait représenter un signal moins fort et ça pourrait donc produire un effet en quelque sorte moins puissant donc, pour réduire l'effet donc, de l'origine sociale. Et dernier travail, alors Julie Falcon et Pierre Bataille reprennent ça aussi dans leur article de 2018. Et en fait, ils montrent que pour les hommes et les femmes, l'effet ascriptif est le plus faible pour un diplôme de 3 ou 4 ans après le baccalauréat, c'est-à-dire ici, mais en fait réaugmente ensuite un diplôme de 5 ans ou plus après le baccalauréat ici et diplôme de grande école. Autrement dit, c'est un peu plus compliqué en fait que ce qu'on avait vu précédemment. Au total, j'ai presque fini, je suis sur mes trois dernières diapositives. Au total et pour la France, donc si je fais la synthèse de ce que j'ai raconté, eh bien on observe donc tendanciellement au fil du temps un affaiblissement de la relation statistique entre origine sociale et niveau d'éducation obtenu, donc une diminution de l'inégalité des chances scolaires, mais on observe aussi un affaiblissement de la force de la relation statistique entre éducation et position sociale, et le lien direct entre origine sociale et position sociale, j'ai noté un certain parce que j'ai présenté des résultats variables, et notamment sur les, le tout dernier travail donc portant sur les enquêtes génération. Et en plus de ça, il y a aussi l'interaction entre éducation, origine sociale et position sociale qui a une forme en U, confère Falcon et Bataille, la diapo précédente, et qui semble aussi s'affaiblir au fil du temps. Pour finir, avant-dernière diapo, pour donner un peu plus large que la France, d'un point de vue comparatif, dans l'ouvrage Social Mobility in Europe, on pouvait analyser le triangle OED comme ceci pour 5 pays. Et on voyait que le lien entre origine sociale et niveau d'éducation atteint avait décliné en France, aux Pays-Bas et en Suède, mais pas en Irlande ou en Grande-Bretagne. Par contre, on voyait que la relation entre éducation et position sociale, à origine sociale contrôlée, s'était atténuée dans les 5 pays. Le lien direct entre origine et position sociale est resté stable en Grande-Bretagne et en Irlande, mais il s'est affaibli aux Pays-Bas. L'interaction entre éducation, origine et position sociale et l'effet de composition associé, donc que j'avais trouvé pour la France et qui avait été trouvé antérieurement par Michael Hout pour les États-Unis dans un papier d'American Journal of Sociology en 1988, eh bien cette interaction elle était aussi visible pour la Suède. Dans l'ouvrage Education, Occupation and Social Origin, où on regarde précisément le lien direct origine sociale, position sociale, dans les 14 pays étudiés, il existe un lien direct, substantiel, entre origine sociale et position atteinte, direct donc à niveau d'éducation contrôlée. Sur un ensemble de 13 pays, le lien direct entre origine et position sociale est temporellement stable dans 9 pays. Voilà, on le voit variable dans les autres. Sur un ensemble de 11 pays, ce lien direct entre origine et position sociale est plus fort parmi les moins diplômés dans la quasi-totalité des pays, donc ce qui va dans le sens de ce que j'ai présenté précédemment. Et enfin, sur un ensemble de 12 pays, le lien entre éducation et position sociale atteinte donc, s'affaiblit au cours du temps dans 8 pays. Hein, ce que les éditeurs de l'ouvrage Fabrizio Bernardi et Gabriele Ballarino donc, nomment sous le terme d'Inflation of Educational Credentials. Et enfin, dans l'ouvrage Education and Intergenerational Social Mobility in Europe and the United States, sur un ensemble de 8 pays, Richard Breen et Walter Müller écrivent ceci dans la conclusion. Considering the broad picture, taking each country over the whole period we have studied, we find no cases in which social fluidity increased without either an equalizing effect of educational expansion or equalization in the relationship between origins and education or both. Autrement dit, pour les pays étudiés, ce qu'on met en évidence, c'est que l'accroissement de la fluidité sociale entre générations a été produite soit par la démocratisation de l'enseignement, l'affaiblissement du lien OE, et ou par l'effet d'interaction et de composition dont je parlais précédemment. Et je m'arrête ici parce que il est temps, et je vous remercie beaucoup de votre attention.